Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabres. Je serai bref et précis. Je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été. C'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, Cinérama en mode été, vous avez peut-être les cigales de votre côté. Nous, on a eh bien toujours des films dont on va vous parler et puis un blind test que l'on va ressortir eh bien des archives, c'est celui de Christopher Nolan, puisque nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de Oppenheimer. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors toi, tu veux nous parler d'un film et puis eh bien à nouveau d'une compositrice, puisque c'est la série de cet été.
Oui, ben, moi un film un petit peu plus confidentiel qu'Oppenheimer. C'est La Vache qui chantait le futur. Et puis après, je vous amènerai en Grèce avec un petit portrait d'Eleni Karendrou.
Mais nous allons commencer cette émission avec Barbie. À Barbieland, vous êtes un être parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle ou si vous êtes Ken. C'est Marine qui nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Hé hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir?
Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer.
Trop cool.
Tout va bien dans la vie de Barbie, tout va très bien même. Elle se réveille à Barbieland tous les jours. Elle snob un peu Ken qui ne vit que pour elle. Elle fait la fête avec ses amis Barbie tous les soirs. Des amis Barbie qui peuvent être qui elles veulent, docteur, présidente, sirène ou maman, pendant que les Ken, eux, eh bien, restent sur la plage à attendre un peu d'attention. Mais Barbie commence à se sentir confuse. Elle en vient même à penser à la mort. Quelque chose s'est visiblement déréglé à Barbieland. Et pour réparer tout cela, eh bien Barbie va devoir aller dans le vrai monde, celui des humains. Et celui de Mattel, la marque qui a créé la célèbre poupée et qui également produit ce film. When my heart
breaks. Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. When my world shakes. Douche à l'eau froide. Oh. Je suis tombée du toit. Ah. Et mes talons... touche le sol maintenant.
Pieds plats.
Imaginez si Barbie, le film, était sorti en 2002. Ken aurait sans doute été interprété par Josh Hartnett, Barbie par une actrice blonde de 19 ans avec les seins siliconés. Il y aurait eu environ 75 placements de produits extrêmement visibles au bas mot, 0 second degré, et l'ensemble aurait été écrit et réalisé par des hommes de 62 ans. Mais nous sommes en 2023 et Mattel est bien obligée de faire avec le féminisme actuel. Et force est de constater eh bien, que si c'est du féminisme washing de la part de la firme américaine, il est des plus réussis. En produisant un film estampillé Barbie, il fallait pouvoir jongler avec de nombreux paradoxes. Faire un film moderne tout en jouant sur la nostalgie, prendre en compte les besoins de diversité, d'inclusion inhérents à notre époque et en même temps garder, reproduire l'esthétique de l'univers Barbie, faire un film tout public mais impertinent, faire un film qui serait appréciable par les enfants et qui ne serait pas un calvaire pour les parents.
Barbie dans le vrai monde ? C'est impossible !
Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera... catastrophique !
Deux armes pour réussir cette mission des plus périlleuses. Un binôme de scénaristes excellents, Noah Baumbach et Greta Gerwig qui réalisent également. Et surtout beaucoup, beaucoup d'auto-dérision. Précisons que le film est également produit par Margot Robbie, qui joue bien sûr Barbie. Margot Robbie, qui est, de par ses excellents choix de rôle et son statut de productrice engagée et inspirée, en train de devenir tout simplement l'une des reines de Hollywood. Greta Gerwig, elle, après avoir été un temps actrice, continue son ascension à moins de 40 ans en tant que réalisatrice. Barbie est son troisième film après le très remarqué Lady Bird en 2010 et Les filles du Dr. Marsh.
On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh.
Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Even if nobody else sings along.
Les humains n'ont qu'une seule fin.
Attrapez cette Barbie.
Les idées, elles, sont éternelles.
Mattel donc fait son mea culpa pour avoir bombardé les petites filles dès leur plus jeune âge d'une vision de la beauté ultra normée avec des critères physiques impossibles à atteindre. Et même si, ne nous mentons pas, l'idée derrière cette remise en question est de relancer grâce au film les ventes de Barbie, eh bien il est assez jouissif d'entendre Barbie être traitée de fasciste par une très jeune adolescente qui lui reproche dans le film sa lisse perfection. À la manière de Vice Versa de Pixar, Barbie sera lue de différentes façons par les enfants ou les publics un peu plus âgés, et le film réussit notamment le petit exploit d'être très insolent, très corrosif, sans jamais qu'une vulgarité sorte de la bouche des personnages et sans aucune allusion graveleuse. En envoyant Barbie dans le monde actuel, le film joue sur un ressort assez classique de la comédie, à savoir l'entrechoquement de deux mondes, un peu comme lorsque Jacouille finalement débarquait dans les années 90, dans Les Visiteurs par exemple, et cela marche très très bien. Le film parvient à maintenir un rythme détonnant sans délaisser ses personnages, en ajoutant des références, des passages musicaux et beaucoup de blagues qui fonctionnent. Chipotons un peu en reconnaissant que le film a la main lourde, c'est vrai, concernant le message anti-patriarcal dans sa dernière séquence. Une séquence un petit peu longuette, un peu mièvre, mais on peut autoriser un film qui garde un rythme impeccable pendant deux heures à avoir un moment de faiblesse, d'autant qu'il retombe sur ses pattes avec une réplique finale absolument fabuleuse.
Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie.
Mais je suis un homme.
Pas un médecin.
Je peux parler à un médecin?
C'est ce que vous êtes en train de faire.
Je veux un stylo qui fait clic.
Non.
Et un truc qui coupe.
Non.
Ah,
appelez
voilà.
La sécurité.
Docteur.
Barbie, c'est vraiment le film que toutes les petites filles devraient voir, accompagnées de leur père, de préférence. Le message est des plus modernes et des plus sains. L'humour y est très généreux, très absurde, souvent totalement barré. Mais Barbie conserve la magie intacte, la double lecture atteignant vraiment ici des sommets de maîtrise. Le casting est extrêmement fourni. Ici, on a pioché aussi bien dans les acteurs des séries à succès que chez les pop stars ou chez les pontes de la comédie américaine tels que Will Ferrell. Mais contrairement au hasard, au dernier Astérix, eh bien ce casting de stars a du sens de par le plaisir que tous les acteurs prennent à se ridiculiser. Mention spéciale à Ryan Gosling dans le rôle de Ken. Rappelons que beaucoup de gens se sont insurgés quant au fait que l'acteur soit, je cite, trop vieux, trop laid pour interpréter Ken. Eh bien, l'acteur est surtout hilarant dans le rôle d'un Ken qui va découvrir avec délice le patriarcat étant, selon ses propres termes dans le film, un monde où les hommes et les chevaux commandent. Pour conclure, je déteste absolument employer ce terme dans une critique de film, mais il faut le reconnaître, Barbie est un film jubilatoire.
Barbie est en salle depuis le 19 juillet. Après Dunkerque qui nous emmenait durant le conflit de la Seconde Guerre mondiale et Tenet viré dans l'espace-temps, voici un retour de Christopher Nolan dans l'après-guerre avec Oppenheimer. Nous en parlons.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair?
C'est une course de vitesse contre les nazis.
Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe.
Quand on cite Christopher Nolan, certains lui donnent l'étiquette d'un faiseur de blockbusters sophistiqué, mais parfois vaseux ou creux, engloutissant des budgets colossaux. Et d'autres, et j'en fais partie, voient chez le réalisateur américano-britannique un des derniers auteurs à Hollywood capable d'engloutir un budget colossal pour raconter ce que bon lui chante en y mettant les formes. Si certains le voient comme un poseur usant d'une forme volontiers pompier à grand renfort d'effets spéciaux, de musique et de rythme, Nolan cache quasiment toujours dans ses films des audaces formelles ou narratives. L'audace formelle, par exemple, de Tenet n'avait jamais été accompli, me semble-t-il, au cinéma. Pour ceux qui l'ont vu, il s'agissait quand même de regarder une séquence en même temps du début et de la fin. Oui, en même temps. Dans le film Oppenheimer, qui s'intéresse au père de la bombe atomique, cela prend une autre forme. Une séquence de liesse est en même temps une séquence de tristesse. Pour cet Oppenheimer, même s'il y a quelques tics formels, le trait le plus marquant est, à l'image de Dunkerque, trois moments de l'histoire qui sont racontés. Si dans le film de guerre, il s'agissait de trois temporalités différentes, ici, cela raconte surtout trois choses différentes. Alors autant dire que Nolan semble avoir tout fait dans la simplicité, pour une fois, on va dire. Mais il faut revenir au sujet d'Oppenheimer, qui, comme son titre l'indique, est un biopic sur le concepteur de la bombe atomique, qui va stopper la Seconde Guerre mondiale en étant lâché sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Pour ce biopic, le réalisateur s'est inspiré d'une biographie parue en 2005. On le voit durant la première partie du film, Oppenheimer est un savant qui a parcouru l'Europe pour se former auprès des plus grands. Quand il revient aux États-Unis, ce pionnier de la mécanique quantique va se voir proposer de mener le projet Manhattan, qui consiste à concevoir la bombe atomique avant les nazis qui, eux, ont déjà commencé les recherches. Alors, c'est autant par patriotisme que par souci d'anéantir les nazis qui exterminent les juifs, parce que Oppenheimer est juif, eh bien que le savant accepte la mission en donnant ses conditions. L'une d'entre elles, c'est de créer une ville confinée à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, réunissant les plus grands spécialistes de la physique.
On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs.
Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps?
Pourquoi? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde.
On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde.
Le risque est proche de zéro.
Le risque est proche de zéro.
Qu'espérez-vous de la théorie brute?
Le risque zéro, ça me plairait.
Ce que montre le film de Nolan, c'est qu'Oppenheimer est un meneur de troupes, un politicien tout autant qu'un scientifique. Ce que montre également le film de Nolan, c'est que cet homme ne cessera jamais de mettre en cause l'utilisation de l'arme thermonucléaire. La mise en scène s'emploie par des sursauts d'images, des explosions soudaines à nous montrer un homme tiraillé, en proie à de grandes interrogations. La question qui émerge donc est de se demander si les scientifiques sont redevables des inventions dont les politiques font l'usage. Ses positions d'après-guerre contre la bombe H, bien plus destructrices que la bombe A, vont lui valoir des ennuis, on va lui reprocher d'être à la solde des soviétiques sans être du parti. Oppenheimer a longtemps côtoyé des communistes américains, et ça, le film le montre très bien. Et le débat de cette commission spéciale, qui ne laisse aucune chance aux savants, Nolan a choisi de nous les montrer, tout comme il a choisi de nous montrer le rôle qu'a eu un certain Lévi-Strauss, interprété par Robert Downey Jr. vieilli, dans la mise en accusation et dans la destitution de Robert Oppenheimer. Une séquence en noir et blanc, alors que, curieusement, eh bien, c'est la plus proche de nous dans le temps. Le film est donc conçu sur ces trois moments, la conception de la bombe et l'aventure qu'on s'est réussi de Los Alamos, et puis deux commissions. Nolan s'emploie davantage à nous montrer le chemin de la construction de la bombe. C'est là qu'on voit les failles du savant Oppenheimer, tant ses questionnements moraux que ses engagements sentimentaux. Les deux autres moments de l'histoire éclairent comment Oppenheimer eut tendance à être victime des politiciens qui, lors de la chasse aux sorcières, s'employaient à broyer tous ceux suspectés d'être sympathisants communistes. Avoir un beau-frère communiste était déjà une raison suffisante. Nolan prend 3 heures pour offrir un biopic soucieux d'éclairer l'homme par le contexte, mais aussi de mettre la lumière sur ses interrogations et ses tourments. Le savant est incarné par un Cillian Murphy, sachant jouer le destructeur assumé comme le savant tourmenté. Les applaudissements que j'ai entendus dans la salle ne sont pas immérités pour ce film Oppenheimer de Christopher Nolan, en salle depuis le 19 juillet. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Christopher Nolan. Nous allons ressortir un blind test que nous avions fait il y a 3 ans lors de la sortie de Tenet.
This is Cinerama.
Réalisateur britannique de 50 ans, 20 ans de carrière, quelques Oscars quand même pour ses films, mais jamais celui du meilleur réalisateur, une douzaine de longs métrages, en commençant avec des petits budgets, mais vraiment tout petits pour dépasser régulièrement les 100 millions de dollars. Et donc il était attendu comme le sauveur par les exploitants de salles européens pour son Tenet. Et en 2 semaines, il a quand même dépassé 1,2 million de spectateurs. Alors ça va être plutôt facile parce qu'il a quand même une petite filmographie et il a fait des films quand même assez caractéristiques. Premier extrait.
Qui sont ces gens?
Des projections de mon subconscient.
Du vôtre?
Oui. N'oubliez pas que c'est vous qui rêvez, qui bâtissez ce monde. Et c'est moi le sujet, c'est mon esprit qui peuple le rêve. Vous pouvez littéralement parler à mon subconscient. C'est un des moyens qu'on a pour extraire les infos du sujet.
C'est quoi les autres moyens?
Créer des lieux sécurisés, tels que un coffre de banque ou une prison. L'esprit y entrepose automatiquement les informations qu'il tient à protéger. C'est clair?
Et là, vous cambriolez ces lieux?
Ça a été trouvé, évidemment.
C'est Inception.
Et oui, entre rêve et réalité, grande richesse visuelle. Donc là, 4 Oscars avec un casting assez impressionnant. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy et même Marion Cotillard. Et ça a été d'ailleurs le César du meilleur film étranger en 2011. Quasiment 5 millions de spectateurs en France. Deuxième extrait.
On pourrait presque les voir là-bas.
Quoi?
Nos maisons.
Mais les Français ?
Publiquement, Churchill leur a dit « bras dessus, bras dessous ». Nous ne partirons pas sans les Français.
Et en privé ?
Nous devons recouvrer notre armée.
De combien d'hommes est-ce qu'il parle, monsieur ?
Eh bien, Churchill en veut 30 000, mais Ramsay espère que nous lui en donnerons au moins 45 000.
Il y a 400 000 hommes sur cette plage, monsieur.
Nous ferons de notre mieux.
Bon, là encore, c'était facile. Beaucoup d'indices, Guillaume.
C'est Dunkerque ?
Oui, Dunkerque, le film qui traite de l'opération Dynamo, qui permet le rembarquement des troupes britanniques coincées dans la poche de Dunkerque. Alors, c'est raconté sous trois temporalités différentes, hein, qui sont autant de points de vue, une semaine, un jour et une heure, trois Oscars en 2018 et 2,5 millions de spectateurs en France. Troisième extrait.
Ah, tu crois que l'obscurité est ton allié ? Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Moi, je suis né dedans. J'ai été façonné par elle. Je n'ai vu la lumière qu'à l'âge d'homme. Et alors, elle m'a juste paru aveuglante. Les ténèbres te trahissent, car elles sont ma chose. Je vais te montrer le lieu qui m'a servi de toi lorsque je me préparais à rendre la justice. Et puis, je te briserai.
Ça a évidemment été trouvé, très caractéristique là encore.
Donc c'est le troisième Batman.
Oui, Dark Knight Rises, film de 2012, et on écoute le méchant Bane interprété par Tom Hardy, qui donne des nions à Batman, interprété par Christian Bale. C'est le film Batman le plus rentable de tous les temps, et c'est le dernier volet donc, de la trilogie dont s'est emparé Nolan avec un certain bonheur pour ma part. 4,4 millions d'entrées en France. Quatrième extrait.
Les sociétés ne tolèrent qu'un seul changement à la fois. La première fois que j'essayais de changer le monde, on disait que j'étais un visionnaire. La deuxième fois, on m'a très poliment conseillé de me retirer. C'est pourquoi je profite si bien de ma retraite maintenant. Il n'y a rien d'impossible, monsieur Angier, sauf que le prix de ce que vous voulez est trop élevé. Si j'acceptais de vous construire cette machine, vous diriez d'elle qu'elle sert à créer une illusion ?
Eh bien, si tout le monde croyait que tout ce que je fais sur scène est réel, les gens n'applaudiraient pas, ils hurleraient à mort. Non, mais pensez aux femmes que l'on scie en deux.
Monsieur, avez-vous réellement songé au coût d'une telle machine ?
Le prix n'a aucune importance.
Ça a été trouvé, Guillaume.
C'est le prestige.
Le prestige, l'histoire de deux prestidigitateurs britanniques à la fin du 19e siècle, engagés dans une dramatique rivalité. Alors là aussi, casting impressionnant. Hein. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson. Et là, on entendait la voix française de David Bowie interprétant le chercheur Tesla. Et ça n'a accueilli en salle française que 193 166 spectateurs, comme un bon film d'art et d'essai finalement, hein, pour un budget de 40 millions de dollars. Voilà. Donc c'était ce qu'on appelle un petit bide. Dernier extrait.
Les données quantiques, tu les as récupérées ?
Oui, je confirme. Je les transmets sur toutes les fréquences, mais rien ne traverse Cooper.
Je réussirai, moi. Je réussirai.
Mais des données aussi compliquées à une enfant ?
Une enfant pas comme les autres.
Même si vous les lui communiquez ici, elle ne les comprendra pas avant des années.
Non, mais j'ai pigé, Tars. Ok, mais il va falloir trouver un truc autrement sur Terre. Ils vont tous mourir sur Terre. Cogite, cogite, cogite.
Cooper, ils ne nous ont pas conduits ici pour changer le passé.
Redis ça.
Ils ne nous ont pas conduits ici pour changer le passé.
Et c'est évidemment trouvé, parce que là encore, c'était facile.
Et c'est Interstellar.
Eh oui, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, encore une fois Michael Caine et Casey Affleck, et le méchant Matt Damon. 2,6 millions d'entrées en France et un seul Oscar, celui des meilleurs effets visuels. Alors, il restait Memento, Insomnia, et tant qu'on y est, Following, hein, son premier long métrage qui avait tant marqué, mais plutôt dans les festivals.
This is Cinerama.
C'était donc un blind test que nous avons puisé dans les archives de Cinerama. Ce blind test était autour de la filmographie de Christopher Nolan, puisque nous parlions de Oppenheimer en salle actuellement. Reprenons eh bien, la route de cette série de l'été dans Cinérama sur les femmes compositrices.
Merci messieurs, c'était très bien.
C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Et aujourd'hui, Guillaume, eh bien, tu romps un peu avec les compositrices britanniques.
Oui, mais on reste quand même en Europe, hein, parce que nous allons parler donc d'Eleni Carendru, hein, donc un nom méditerranéen, hein, qui comporte bah, déjà en lui une forte musicalité, hein, et qui nous amène directement en Grèce. Alors là aussi, hein, bah, son nom n'est peut-être pas le plus connu hein, du grand public, hein, mais elle a su se faire une place de choix dans le cœur des cinéphiles mélomanes. Car si sa carrière commença dès les années 70, c'est dans les années 80 que naîtra la collaboration qui bah, exportera pour de bon son travail. Alors Carendru hein, est en effet la fidèle musicienne de l'illustre cinéaste grec Théo Angelopoulos, hein, décédé en 2012. De Voyage à Cythère en 84 à La Poussière du Temps en 2008, hein, bah, ils ont signé ensemble 6 films, dont La Palme d'Or en 98, L'Éternité et un jour. Alors, dans tous ces films, la musique a une présence de premier plan, une force hein, mélodique et lyrique. On écoute un extrait de la BO bah, de L'Éternité et un jour, un morceau intitulé By the Sea. Revient dans une interview accordée à Cinésique hein, sur la relation particulière bah, qu'il a liée à Angelopoulos. Alors je cite, hein, Théo était un conteur. Tout ce qu'il racontait, il le racontait d'une façon extraordinaire, avec beaucoup de sentiments dans notre âme. Il m'invitait chez lui, commençait à me raconter son scénario, il marchait pendant 3 heures et il racontait. Et le lendemain, après avoir dormi, bah, je me suis réveillé et j'ai trouvé le thème au piano, le thème qu'il souhaitait avoir. Alors, bien sûr, hein, il fallait beaucoup de travail après ça, pour les orchestrations, etc. Mais les idées, je les ai toujours capturées dans ma vie en ayant un rapport très étroit avec les idées, mais pas avec les images. L'idée pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Par exemple, pour le regard d'Ulysse, c'était l'idée de la perte de l'innocence, ce qui m'a vraiment bouleversé. C'était le premier regard. Théo cherchait dans le film à retrouver le premier regard. C'est le regard de l'innocence, celle de l'humanité ou de l'individu. Carendru continue, hein. Quand je capturais cette idée et que j'étais vraiment bouleversé, je cherchais en moi-même. Chaque compositeur qu'on est, on ne peut pas nous dicter la musique. Si on ne cherche pas profondément en nous, on n'arrive pas à trouver quelque chose. Donc voilà, nous vous invitons au voyage intérieur avec un morceau hein, tiré du dernier film d'Angelopoulos, La poussière du temps, idéalement intitulé Seeking, recherche.
La semaine prochaine, tu nous parleras d'une compositrice, cette fois-ci américaine.
Oui, et plutôt bien connue, hein, des cinéphiles de genre, ce sera Wendy Carlos.
Ah oui, l'occasion de parler de la filmographie de Stanley Kubrick. Cécilia rentre au Bercail dans le sud du Chili, là où des vaches sont touchées par un mal curieux et où sa mère réapparaît soudainement. Nous parlons de la vache qui chantait le futur.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Chili con mucho carne aujourd'hui, hein, puisqu'il est question d'un récit chilien qui met en scène des vaches d'élevage. Hein. Donc la vache qui chantait le futur. Bah, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec un titre pareil et ce n'est pas pour nous déplaire parce que c'est pas tous les jours qu'on a un peu de poésie absurde. Alors immersion directe, littéralement d'ailleurs. Vu que les premiers plans montrent longuement la vie d'une grande rivière d'où va en sortir un personnage, quelque part dans le sud du pays où Cécilia, chirurgienne à la ville, doit revenir précipitamment avec ses deux enfants à la ferme familiale où vivent son père et son frère. Des dizaines de vaches sont mystérieusement frappées d'un mal mortel et la mère de Cécilia, décédée depuis plusieurs années, réapparaît. C'est la fameuse nageuse du début. Cette rencontre surnaturelle dans la maison de son enfance va bien évidemment faire ressurgir un passé douloureux et permettre de se confronter à plusieurs problèmes vécus par cette famille, pas comme les autres, et d'y apporter un point final.
Pourquoi están protestando?
Me parecieron muchos peces muertos.
Siempre pensé en este momento.
À l'image de son titre, le film de Francisca Alegría est bizarre. S'il ne se départ pas d'un ton sérieux de bout en bout, il met en scène différents personnages et situations qui sont compliquées à mixer sans que l'on se pose forcément des questions. Car derrière un message qui lui est clair comme l'eau de roche, le film mélange drame, drame rural, drame familial, drame fantastique et même drame musical le temps d'une scène. Bon alors, je semble spoiler un peu, mais en même temps, on s'est déjà arrêté sur le titre déjà assez explicite. Oui, il y a bien une scène où des vaches chantent. Donc le résultat sera sûrement un petit peu moins amusant et virtuose que ce que l'on peut bien s'imaginer quand on vous l'annonce de but en blanc, mais il n'empêche qu'il tient ses promesses, quand bien même le contenu de chanson et à ce qu'il renvoie est profondément triste. Alors il se rapproche de la séquence quelque peu autre du Bad Lieutenant de Werner Herzog, où un iguane est filmé en très gros plan avec un chant derrière qui fait qu'un Nicolas Cage sous substance imagine qu'il est en train de chanter pour lui. Mais la vache qui chantait le futur a des préoccupations bien plus graves, mais malheureusement au point de multiplier les pistes sans jamais les creuser et les amener à un véritable aboutissement. La fable écologique ouvre le bal avec cette rivière charriant des tonnes de poissons morts, puis une longue réflexion sur l'exploitation animale dans cette ferme qui utilise des vaches comme un produit au mépris des règles les plus élémentaires de vie. Alors ensuite, il y a une peinture d'un monde rural totalement désenchanté qui vit au règlement de compte familial. Il y a ici un pas de portrait idyllique de la vie au champ et de la cohabitation des hommes et des animaux. Et à travers les yeux de la plus jeune de la famille, on rappelle aux spectateurs urbains que le labeur, c'est physique, intense et que l'argent se gagne littéralement à la sueur du front et qu'une mauvaise gestion peut détruire le travail d'une année, voire d'une vie entière. Par-dessus cela, et en rejoignant le règlement de compte familial, il y a la réflexion sur l'identité via l'adolescent de la famille qui se voit et se dit femme, mais dont la mère refuse d'épouser son point de vue. Sans le rejeter, elle veut qu'il reste normal tant qu'il sera mineur et n'a pas grand-chose à faire de ce besoin d'affirmer et d'exprimer son identité par un changement de look et d'attitude. Alors au final, le semblant de liant de tout cela se retrouve dans un surréalisme qui sera, suivant l'intérêt du spectateur, le dernier clou planté dans le cercueil de sa patience et de son intérêt, ou au contraire salvateur, car cette histoire ne pouvait pas vraiment se conclure via un cheminement cartésien. Alors symbole d'une vie en dehors des normes qui se conclut par une folie douce et une poésie qui contraste avec sa première partie bien plus rigide, le parcours de la mère continue néanmoins d'interroger. C'est la force qu'on peut tirer de la vache qui chantait le futur, de ne pas donner toutes ses réponses, de laisser parler les images parfois inspirées de Francisca Alegría, et de rester au fond aussi étrange que son film, quand bien même un plus gros parti pris sur l'ensemble des composantes de l'œuvre aurait été apprécié.
La vache qui chantait le futur est en salle depuis le 26 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on revient et on a déjà parlé de la compositrice Wendy Carlos, mais tu auras aussi un film.
Oui, un autre bon film venu d'Asie qui nous parvient en ce mois de juillet, c'est Rendez-vous à Tokyo, qui succède à Limbo.
Et puis on ressortira le blind test autour de la filmographie de Quentin Dupieux. À la semaine prochaine et bel été.
This is Cinérama.